Mes chers collègues, je pense qu'il est l'heure. Je vais regarder quand même. On va pas commencer avant l'heure, mais
il est la nuit.
J'ai reçu des pouvoirs pour cette séance. Catherine Crozat sera représentée par Magali Carbonel jusqu'à ce qu'elle arrive. Idem pour Candy Lheureux avec Christian Demongin qui la remplacera momentanément. Aline Triolet représentée par Pascal Marniquet, Astrid Tussaud par Édouard Abon, Nicole Lesage par Christine Mazzi et Sébastien Durançois par Chantal Clément. Alors, je vous invite à désigner un secrétaire de séance. L'usage veut que le plus jeune membre de l'Assemblée soit rempli de cette fonction. Je vous propose donc de désigner Youri Philippe comme secrétaire de séance. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous attaquons par le rapport 2.1 concernant le jury de concours pour la passerelle. Comme indiqué dans le rapport en votre possession, il convient de procéder à la désignation des membres d'une commission d'appel d'offres spécialement désignée pour l'opération passerelle passe-quartier. Cette commission est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Au nom de la majorité municipale, je vous propose les candidatures suivantes en titulaire, Anne-Marie Legras, Jonathan Rodriguez, Christine Mazzi, Joachim Verdier. Au titre des suppléants, Jacques Fromm, Michel Brixy, Benoît Moitié ou Rémi Grand. Donc évidemment, je demanderai à l'opposition si elle a un nom à présenter. Je voudrais quand même rappeler, j'allais dire, l'importance de ce jury. Il s'agit, comme vous le savez, dans la perspective de l'aménagement du quartier Berge de Marne, d'anticiper sur le concours concernant cette passerelle. Je rappelle que les contraintes fixées par la SNCF font que, entre le moment où cette passerelle va être choisie et le moment où elle sera installée, il se passera à peu près 3 ans, puisque l'organisation des flux côté SNCF, les contraintes imposées au trafic nécessitent obligatoirement ces 3 ans. Donc le fait d'engager cette opération aujourd'hui ne signifie pas que à la rentrée du mois de janvier prochain, on aménage cette passerelle. Il va se passer un certain temps, des temps d'études côté SNCF, de façon à ce que cette passerelle puisse être installée, voir le jour et jouer son office, son rôle de liaison entre la cour de la gare, qui sera elle-même repensée dans le cadre d'un projet autour du pôle multimodal que représente la gare SNCF, et ce futur quartier. Alors, est-ce que les élus se sont mis d'accord de l'opposition pour désigner un représentant parmi eux ? Monsieur Angers ?
En tout cas, notre groupe présente la candidature de William Richard.
Merci. Y a-t-il d'autres candidats ? Pas d'autres candidats ? Et un suppléant, il nous faut un suppléant également.
Jean-Paul Angers.
Bon. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ou d'autres listes ? Donc, ce que je vous propose, c'est de voter à main levée. C'est pas nécessaire ?
Non, il n'y a pas besoin.
Voilà, il n'y a qu'une seule liste. Donc, je vous remercie. Nous passons au rapport suivant. Christine Mazzi, ça concerne les attributions de subventions.
Oui, merci, Monsieur le maire. Divers groupements et organismes ont adressé des demandes de subventions auxquelles je vous propose de répondre favorablement. Ces subventions sont détaillées dans le rapport qui est en votre possession.
Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Pas de questions particulières ? Pardon ? Oui, rapport 2.2. Mettez votre micro si ça vous dérange. Prenez votre micro si ça ne vous dérange pas. C'est pour enregistrer vos propos.
Oui, monsieur le maire, j'ai juste une question à poser concernant la subvention à l'association turque. Je voulais savoir je voulais savoir si ça avait à voir, excusez-moi de la répétition, avec ce qu'on avait vécu, connu, enfin surtout Madame l'adjointe, lors de la manifestation qu'il y a eu à la salle Odilcop. Non, mais je posais la question, est-ce que ça a à voir ? Ok, c'est bon, c'est bon.
que les Tchèques, que l'association tchèque, excusez-moi, je m'exprime mal. Donc, c'est que l'association culturelle et culturelle tchèque qui organise cette manifestation au mois d'avril en général. Je ne sais plus la date exacte. C'est la fête internationale des enfants. Ils font une grande fête. Ça n'a rien de culturel. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu la dernière fois. Tu crois bien que je n'accepterai jamais ce genre. Non.
Non.
Oui. Non, non. Non. Et puis, à cette manifestation, si tu te souviens, ce n'était pas l'association tchèque qui organisait, mais c'était le... Comment il s'appelle ? C'était le Amadia. Donc, voilà. Mais ils n'ont aucune subvention.
D'autres questions ? Pas d'autres questions ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 3.1. Jacques Fromm.
Chers collègues, dans le cadre de la manifestation La Fête de la Bière, la société Sparflex souhaite renouveler son soutien à cette manifestation en proposant de réaliser pour la troisième année consécutive la capsule officielle de l'événement qui sera distribuée aux visiteurs. Je vous propose d'autoriser la signature de la convention de partenariat annexée au rapport en votre possession.
Merci. Des questions ? C'est ce week-end, hein ?
Oui.
Bon, normalement, il fait beau.
Oui.
Parce qu'il fait toujours beau à La Fête de la Bière, donc... Et je crois qu'ils annoncent du beau temps.
Oui, ils annoncent du beau temps.
On devrait faire une fête de la bière tous les week-ends. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. On passe au rapport 3.2. Christian de Mongin.
Chers collègues, nous retrouvons des délibérations de temps en temps pour ceux qui ne sont pas, mais le premier concerne le musée et le mécénat. Donc,
première convention de mécénat entre la Fondation du patrimoine, la ville d'Épernay et le comité d'avenue de Champagne pour un montant de 5 000 €. De même avec la Fondation du patrimoine, le Champagne Pierre Peters pour un montant de 30 000 €. Puis en direct entre l'entreprise, la maison de Champagne du moins, et la ville d'Épernay, le Champagne Philippe Gonnet pour 25 000 €. Et en nature, les chocolats Briette. Voilà.
Comme par hasard.
Voilà pour cette délibération.
Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Pas de questions. Je rappelle que s'agissant du mécénat d'entreprise et des particuliers, on atteint avec les conventions qui sont présentées dans ce conseil la somme de 2 269 000 € environ. Et d'autres démarches sont en cours. Donc il n'est pas impossible du tout. Il est même quasiment certain qu'on aura d'autres conventions à passer au conseil. Pas d'opposition, pas d'abstention. Oui, Madame Demange, allez-y.
Merci, Monsieur Marge. J'ai juste une question concernant les... Il est noté dans la convention qu'il y aura des avenants faits, vous savez, pour les cadeaux, etc. Il y aura un avenant à la présente convention, dans toutes les conventions. Quand oui. seront faits ces avenants ? Est-ce qu'ils seront tous faits en même temps ? Et est-ce qu'on les verra passer en délibération au conseil ?
En principe, si la convention qui est approuvée a un avenant, on verra passer les avenants, puisqu'on passe toujours l'avenant d'une convention qui est passée au conseil municipal. Maintenant, je suis pas capable de vous dire à quelle date ils seront présentés au conseil municipal. Mais ils le seront nécessairement.
Oui, ce sera relatif à la mise en œuvre des contreparties. Voilà.
Y a-t-il d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport
3.3 et 3.4.
Le rapport suivant, oui. Mais j'essaie d'avoir le numéro.
Il s'agit des...
3.3.
Oui, nous allons regarder en même temps les 3.3 et 3.4, puisqu'il s'agit, cette fois de mécénat, de partenariat dans le cadre du festival Voilà l'été. En ce qui concerne 3.3, c'est la société de champagne Jacquino et fils qui souhaite être mécène et s'engage à verser 2 000 €. Et en ce qui concerne 3.4, c'est le Crédit Mutuel Nord-Europe qui verse une subvention dans le cadre de Voilà l'été.
Merci. Est-ce qu'on peut rappeler les dates ? Oui, les dates sont rappelées hein, dans le rapport du 5 au 26 juillet. 2019. Pas de questions ? Oui, Marc ?
Oui, donc deux questions, ou plutôt une affirmation plutôt. J'ai découvert dans Grand Reims Magazine, à la page 45, qu'il y avait donc de la publicité sur Épernay, sur la lancée par Barcella de Voilà l'été, ensuite sur l'arrivée du Tour de France, sur le triathlon et sur le 14 juillet. Alors je voulais savoir s'il y avait, si c'était réciproque, s'il y avait un lien, une discussion avec Reims et Chalon, puisque Chalon a aussi une page. Donc on annonce aussi ce qui se passe à Reims, à Épernay.
Oui, c'est pareil sur le support de l'aglo. Donc c'est d'aglo à aglo en quelque sorte. Donc ça profite à des événements qui peuvent être ou à Épernay ou autour d'Épernay et réciproquement dans le journal de l'aglo, le nôtre et dans celui de Chalon. L'idée c'est, on est aujourd'hui dans l'ère de la mobilité, les gens, autrefois les publics ne se déplaçaient pas d'un territoire à un autre, aujourd'hui les gens se déplacent très facilement et je pense qu'il est souhaitable de faire en sorte que les communes, voilà, qu'on n'ait pas entre nous des cloisons étanches et que quand il y a des choses intéressantes à Reims ou à Chalon, bah, les Sparnassiens puissent le savoir et y aller éventuellement, de même que dans le sens inverse, quand les événements sont chez nous, bah, que les Rémois et les Chalonnais viennent facilement.
Je n'avais pas encore vu sur le magazine à Épernay, ça y est.
De le magazine de l'Aglo.
De l'Aglo, oui. Et puis ma question sur l'organisation de Voilà l'été. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une idée du coût de ce festival? Et puis, deuxième chose, est-ce qu'à l'avenir, il est envisagé d'une évolution, c'est-à-dire d'avoir un festival un peu plus important et surtout en avoir au mois d'août? Et on pourrait peut-être imaginer, avec une prolongation en août, prévoir une vente d'un package avec l'Office du tourisme, avec, par exemple, une montée en ballon, une visite une visite du musée, etc. Est-ce que c'est envisageable?
Alors, on a toujours veillé, que ce soit pour Voilà l'été ou avant pour les musiques d'été, à venir concurrencer le festival Musique en Champagne, je crois que c'est le nom de faire en sorte que le festival qui commence au niveau de la Grande Vallée de la Marne démarre quand le nôtre est terminé. Pour éviter d'avoir des doublons dans les dates, on a un public qui se déplace là aussi facilement et ça doit faire au moins 10 ou 12 ans qu'on fait en sorte de s'arrêter, nous, plutôt au mois de juillet, on allait avant début août, et eux commençaient de mémoire aux alentours du 15 août jusqu'au début septembre. Je pense que c'est toujours le cas et je pense qu'il faut veiller à cette coordination, ce qui d'abord permet finalement une offre sans redondance de dates sur l'été. La question qui peut se poser, c'est effectivement sur du 1er au 15 août, où effectivement on a un creux dans les activités. Ça fait partie des réflexions qu'on peut conduire, mais c'est vrai que c'est sans doute le moment le plus délicat, parce que c'est là que les partenaires qui sont les nôtres dans l'organisation sont souvent en période de repos estival, et c'est pas forcément le moment où il est plus facile d'attirer du public ici. Autant le mois de juillet, ça se passe bien, et les résultats qu'on obtient au niveau de Voilà l'été sont tout à fait satisfaisants. On l'a déjà fait, oui. Avant, on devait terminer vers le 10 août, de mémoire. Et on sait aussi qu'après le 15 août, l'activité redémarre. Et c'est la raison pour laquelle Musique en Champagne a toujours démarré son activité après le 15 août, sachant que la période du 1er au 15 août est la plus creuse. Ça fait partie des choses qu'on peut envisager, hein. Il n'y a pas de vérité absolue en la matière. Mais j'insiste surtout sur le fait qu'il est important que sur un territoire comme le nôtre, où encore une fois les publics peuvent aller d'un territoire à l'autre, il est important qu'on ne se marche pas sur les pieds et qu'on ne fasse pas des dates de concert le même soir où la Grande Vallée de la Marne l'organise de son côté. Ça ne pourrait que finalement nous faire perdre d'un côté comme de l'autre des spectateurs. Christian, je ne sais pas si tu avais des éléments complémentaires à ajouter.
Moi, pas particulièrement. Je crois avoir entendu parler de coût du festival, c'est ça que tu disais? Oui. Il y a un budget, sauf erreur de ma part, de 52 000 euros sur 9 ou 10 concerts. Vous voyez que les services s'arrangent pour entrer dans le budget. Quant à tout ce que Franck vient de dire, effectivement, ça peut être un sujet de réflexion pour trouver cohérence et développer jusqu'au 15 août. Maintenant, il est vrai aussi qu'il y a un aspect à voir, c'est que les personnels sont archi chargés de travail,
oui,
du début juin jusqu'au fin juillet, et que effectivement les conserver encore au 15 août, jusqu'au 15 août. Mais bon, tout ça peut se discuter.
Oui, c'est un point que je n'ai pas évoqué, mais effectivement, à partir du, on va dire, du 15 mai jusqu'au fin juillet, il y a beaucoup d'événements à monter. Tout est organisé par des personnels municipaux qui, évidemment, ont droit aussi à un légitime moment de repos. Et si on devait prolonger nos interventions au-delà du 1er août, ça voudrait dire qu'ils ne pourraient pas prendre des vacances ou qu'il faudrait prendre du personnel vacataire supplémentaire, ce qui n'était pas l'esprit. Donc je crois pouvoir dire que quand arrive la fin juillet, ils peuvent souffler un peu et partir en vacances, ce qui, et ensuite ça reprend avec le festival organisé par la Grande Vallée de la Marne. Donc quelque part, il y a certes un trou dans le calendrier, mais en même temps, on est contraint avec les obligations légales en termes de congés pour nos salariés.
C'était seulement pour les années où il n'y avait pas d'arrivée du Tour de France à Épernay.
Pourquoi ?
Non, mais...
Ah oui. Oui, mais là, ça change pas grand-chose.
Le budget n'a pas changé pour nous.
Non, ça change pas grand-chose cette année. Simplement, effectivement, l'ouverture le 5 se fera, j'allais dire, au moment où commencent les festivités liées au Tour de France. Je rappelle que on aura le 6 la Champagne en fête, le 8 le Tour de France. Donc, on va avoir effectivement un week-end assez chargé, mais on peut penser qu'il y aura aussi un peu de monde dans le secteur. Pas d'autres questions sur ce rapport ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons donc au rapport
3.5.
C'est toujours Christian de Mongin et ça concerne la Maison des Arts et de la Vie Associative.
Il s'agit cette fois d'une modification du règlement intérieur de la Maison des Arts et de la Vie Associative, modification relativement assez légère. En fait, l'équipement ayant évolué et les demandes également, le règlement doit être un peu modifié. Cela concerne surtout des horaires de fermeture dans les périodes creuses, quand il n'y a pas de demande. Pourquoi laisser la maison ouverte ? Mieux vaut qu'elle soit ouverte un peu plus tard, quand il y a beaucoup de demandes. Donc c'est une adaptation, c'est surtout cela qui est vu dans les horaires et pour certaines périodes de vacances. Voilà.
Là aussi, il y a des problématiques de congés pour le personnel. C'est sûr qu'entre Noël et Nouvel An, l'activité est extrêmement restreinte à la Maison de la Vie Associative. Et en même temps, nos salariés aspirent à pouvoir prendre quelques jours de congé. Idem sur la première quinzaine d'août, à quelques jours près, parce que le 15 août tombe toujours, certes, le 15 août, mais parfois tombe en milieu de semaine ou en fin de semaine. Donc il y aura forcément toujours une petite adaptation qui permet là aussi de caler les congés des salariés de la Maison des Arts et de la Vie Associative. Des questions ? Oui ?
Il est dit qu'il y aurait réservation exceptionnelle après accord du directeur ou de la directrice. Donc, en fin de compte, qui a le pouvoir de décider, la direction de la MAVA ou le maire ?
Les deux, la MAVA peut très bien proposer au service, au maire, voilà.
Ça peut mais la direction peut dire non et le maire dire oui.
Oui, ça, en général,
je ne pense pas que ce soit marqué.
Les cas où il m'a été contraint d'arbitrer, c'est quand il y avait plusieurs réservations sur une même date. Quand on n'avait pas la définition précise de l'intériorité, mais en règle générale, la direction de la Maison des Vies Associatives fait le job et je veux dire, ça ne pose pas de difficultés. C'est vrai qu'à certains moments, sur les week-ends de fin d'année, il y a évidemment beaucoup d'acteurs qui voudraient avoir les salles en même temps. Bon, on a réussi à trouver un mode de régulation qui semble aller. De même, on avait aussi à un moment des associations qui souhaitaient réserver 2, 3, 4, 5 ans à l'avance, ce qui posait un problème parce que, j'allais dire, en bloquant longtemps à l'avance des salles, alors qu'on n'était pas certain que ces manifestations auraient lieu, ça limitait le choix pour les autres associations. Donc on a défini des règles et c'est l'usage qui veut que tout se passe par la Maison de la Vie Associative. Et il est extrêmement rare qu'on me demande d'arbitrer sur une décision de cette nature. Pas d'autres questions ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous arrivons au rapport 4.1 qui concerne Anne-Marie Legras. Et ça concerne plus particulièrement les échanges fonciers au niveau du quartier Rosemont.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose d'acter les modalités de l'échange foncier à intervenir avec Pluriel Neuvillia, concernant le quartier Rosemont. L'objectif de cet échange est que la ville et le bailleur soient propriétaires des espaces dont ils auront la charge, les espaces publics à la commune, les espaces nécessaires au logement à Pluriel. Compte tenu de la différence de surface échangée et de la différence de valeur, la ville doit verser une soulte qui s'établit à 255 000 euros net, conformément à l'estimation du pôle d'évaluation domaniale de la Direction départementale des finances publiques. Comme indiqué dans le rapport en votre possession, il convient de constater la désaffectation des portions de l'ancienne allée de terre rouge appelée à être cédée, d'en prononcer le déclassement du domaine public préalablement à l'échange. Enfin, je vous précise que les frais de géomètre liés à cet échange seront partagés entre la ville et Pluriel Neuvillia, à concurrence de 50% chacun.
Merci Anne-Marie. Alors vous avez un plan qui montre bien l'organisation du futur quartier avec en rouge les zones qui font partie de la domanialité Pluriel Neuvillia et en jaune et en vert les autres zones, sachant que ceux qui sont passés à proximité ont pu voir que les travaux avançaient bien, qu'un certain nombre, le bâtiment situé à l'angle est, on va dire, en voie de finition. Ils en sont aux espaces extérieurs. Pour le reste, le chantier va s'organiser de manière à ce que ces constructions puissent voir le jour prochainement. On aperçoit très bien les différents bassins qui ont vocation à permettre l'absorption des eaux d'orage, notamment. Je rappelle que par le passé, nous avions régulièrement des inondations importantes au quartier de Beausoleil. À l'époque, il s'appelait Beausoleil, il était souvent sous les eaux dès qu'un orage intervenait. Qu'aujourd'hui, la répartition des espaces fait que les constructions sont limitées dans des zones dont nous avons la garantie qu'elles sont hors d'eau, alors qu'au contraire, un certain nombre de bassins seront aménagés pour accueillir, en cas d'orage, ces eaux qui arrivent de manière assez brutale, et que donc la poursuite de l'aménagement de ce quartier devrait être engagée très, très prochainement, ce qui nous permettra de voir se dessiner le futur quartier Rosemont. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Madame Demange.
Merci, Monsieur le maire. Juste une petite précision pour les 912 mètres carrés de l'ancienne allée Terre Rouge. Oui. Est-ce qu'ils sont compris dans les 3535 mètres carrés ou pas ?
Alors.
Je n'ai pas réussi à déterminer sur le plan qui n'est pas
912.
Très clair.
Oui, on parle d'un cycle 912 mètres carrés issu de l'ancienne allée Terre Rouge.
Mais est-ce qu'ils sont compris dans les 3535 mètres carrés ou pas, sans plus ?
Normalement, au domaine public, ils sont, oui.
Oui, c'est le terrain d'assiette des anciennes voiries du quartier qui devient une zone intégrée à la zone rouge.
C'est les parties bleues qui sont dans les zones rouges.
Oui.
C'est ça. Qui sont intégrées dans le total des 3535 mètres carrés, du coup.
Logiquement, oui.
Très bien, merci.
Pas d'autres questions ? Avis contraire, abstention, une abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4.2. Anne-Marie.
Chers collègues, je vous propose d'approuver le bilan de la concertation publique pour l'aménagement du quartier des Berges de Marne, qui s'est déroulé de juillet à décembre 2018. Avez-vous des questions sur le rapport en votre possession ? Vous avez été nombreux à participer à toutes les réunions organisées, aux visites sur site, et qui ont été particulièrement intéressantes. Avez-vous des questions ? Oui,
Marc.
Monsieur.
Oui, donc pour ma part, j'ai participé à la visite et puis à la concertation, à toutes les réunions. Donc ça me semble être positif. Mais bon, ce qui ressort, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Hôtel, restaurant, halte fluviale, guinguette, activités artistiques, skatepark, etc. Et j'en passais. Et donc, au final, il y aura certainement beaucoup de gens déçus. Alors, je voulais savoir si c'était une première concertation et qu'il y en aurait une seconde lorsqu'il y aurait un schéma, un plan, un projet plus fin de construction, d'aménagement.
Alors, moi, ça ne me pose pas de difficultés, évidemment. À ce stade, vous savez qu'on n'est pas encore propriétaire du terrain.
que cet aménagement va sans doute s'étaler sur au moins une quinzaine d'années, voire davantage, et qu'il n'est pas du tout impossible qu'au cours des prochaines années, le projet évolue. Pourquoi ? Parce que on aura peut-être à satisfaire des besoins qui n'existent pas aujourd'hui, à contrario, des projets que l'on pense pertinents aujourd'hui ne seront peut-être plus dans quelques années. Donc, il fallait évidemment que cette concertation soit menée pour donner notamment, permettre aux Sparnassiens de s'exprimer sur le sujet, de leur permettre d'avoir un aperçu de ce quartier, et je crois pouvoir dire que le déplacement sur les lieux avait été extrêmement suivi, extrêmement intéressant, et que ce quartier va d'abord très certainement intégrer le patrimoine municipal dans les années qui viennent, et puis va démarrer par quelques premières opérations qui ne respecteront pas forcément dans la chronologie ou dans la typicité exactement les besoins exprimés au départ. Je crois que ce qui a été intéressant dans cette concertation, c'est que ça a permis à un certain nombre de Sparnassiens, vous étiez de ceux-là, d'exprimer des idées, des idées plus ou moins réalistes. Certaines d'entre elles, j'allais dire, sont de vraies belles idées, mais dont on peut imaginer que la réalisation ne sera pas forcément évidente. D'autres sont peut-être plus modestes, mais pourraient s'avérer extrêmement positives pour un quartier comme celui-ci. Quoi qu'il en soit, ce que je souhaite en ce qui me concerne, c'est que cet aménagement de quartier se fasse de manière aussi interactive que possible. On a même imaginé de dédier un local à l'aménagement de ce quartier en y faisant figurer, par exemple, une maquette qui pourrait progressivement prendre la forme du futur quartier. On sait maintenant qu'on dispose d'outils numériques qui permettent aussi de restituer ou de simuler le quartier de demain. Je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire sur ce quartier. Et évidemment, plus on pourra partager les orientations de ce quartier avec les habitants, plus ils se l'approprieront. Ce n'est pas évident parce qu'aux yeux de beaucoup aujourd'hui, c'est un quartier industriel. Et c'est vrai qu'il a toujours été un quartier industriel. Demain, c'est un quartier qui a vocation à accueillir de l'habitat, des activités de service, des activités de loisirs, des espaces verts, des espaces de rencontre ou de promenade. Et que je pense qu'il serait logique qu'on essaie d'y associer autant que possible les Sparnassiens. Donc, effectivement, cette concertation, elle propose un certain nombre de projets. Encore une fois, tous ne pourront sans doute pas être mis en œuvre, mais il y a déjà une richesse dans l'expression publique sur l'aménagement de ce quartier des Berges de Marne qui est en soi tout à fait encourageante. Et je peux parfaitement imaginer que d'autres projets viennent alimenter la réflexion au cours des prochaines années de manière à ce qu'on fasse de l'aménagement de ce quartier une véritable opportunité pour la ville. À savoir celle d'aménager un quartier correspondant aux besoins du 21e siècle dans un univers où la transition énergétique est un élément majeur, dans un univers où le développement numérique crée aussi toute une série de services nouveaux. Et j'imagine pas qu'on puisse passer à côté de ces enjeux-là, ce qui impliquera pour nous d'être très à l'écoute de ce qui se fait dans le monde, ce qui se fait dans ce genre de quartier. On a déjà vu dans d'anciens lieux SNCF des choses assez étonnantes de se faire. Il y a les halles, on a des halles magnifiques. Plusieurs halles ont été aménagées dans différentes villes d'Europe, qu'elles soient moyennes ou grandes. Là aussi, des formes de loisirs nouveaux ont pu naître. Je pense qu'il faut être extrêmement ouvert à ces idées. Et moi, en ce qui me concerne, je trouve que l'idée d'y associer la population, c'est l'idée d'emmagasiner des idées nouvelles qui ne peuvent que tirer le projet vers le haut.
Par ailleurs, oui. Donc, l'évolution de l'hypermarché Carrefour peut avoir donc des conséquences sur le projet. Hein, il y a annoncé 3000 suppressions d'emplois au niveau national. Et donc, les salariés sparnassiens, qui sont au nombre de 130, sont assez inquiets. Donc, vous avez récemment écrit à la direction de Carrefour national. Est-ce que vous avez une réponse ?
Oui. La directrice de Carrefour... La directrice générale de Carrefour Hypermarché, qui est la fille de Pierre Cheval, Marie Cheval, m'a répondu. On n'a pas la lettre ? On peut peut-être la récupérer. Je vous en donnerai lecture, mais elle est tout à fait rassurante dans le cadre où il est très clairement indiqué qu'il n'est pas du tout envisagé que le Carrefour d'Épernay ferme. Donc ce que je propose, c'est que dès que le courrier sera descendu, je vous en donne lecture.
Et dernière chose, oui. Donc, j'ai vu les parkings en silo. C'est un parking à étage, en hauteur.
Oui, aérien, à la différence d'un parking.
Donc, ça se fait dans plusieurs villes. Dans certaines villes, il y a des galeries marchandes au rez-de-chaussée. Est-ce que c'est envisagé comme cela ?
On peut l'envisager comme ça. Je pense qu'en l'occurrence, il n'est pas forcément envisagé de galeries marchandes, sauf si ça intégrait le centre commercial Carrefour. Il est prévu, dans l'aménagement du futur quartier, parmi les espaces de vide, il y a le grand parking de Carrefour. Est-ce que ce parking évoluera demain et ça se fera nécessairement en liaison avec Carrefour sous la forme d'un stationnement en silo ? Il est évidemment trop tôt pour le dire. L'avantage d'un parking en silo, c'est que ça permet de stocker beaucoup plus de véhicules sur un espace au sol moins étendu. Ça permet également d'abord une desserte par ascenseur, évidemment, pour les gens qui font parfois de longues distances pour rejoindre leur véhicule. Mais ça peut faire partie des solutions. L'avantage des parkings en silo, on les trouve également souvent à proximité des voies SNCF. Et ils ont pour avantage de faire un écran au bruit. Si vous mettez en front le long des voies SNCF des parkings en silo, pour tous les immeubles qui se trouvent derrière, ils n'ont plus du tout le bruit de roulement des trains. Donc c'est ce qui s'est fait notamment à Clermarais, à Reims, ce qui se fait autour de beaucoup de gares. D'abord, les gares ont besoin d'un volume de stationnement important. Et deuxièmement, le fait de positionner ces parkings en silo en bordure des voies fait qu'on limite les contraintes et les nuisances liées à l'utilisation de la voie SNCF. D'autres questions ? Oui, monsieur Richard.
Merci, monsieur le maire. Puisqu'on parle de... enfin, la délibe porte sur l'aménagement futur de ce quartier, de cet endroit, j'avais une question qui a trait à la passerelle. Alors, je ne reviens pas en arrière, mais qui a trait à la passerelle parce que l'avis de concours, l'appel à concours est déjà sorti. Hein. Et donc, ce qui démontre un optimisme à tout craint, mais ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire, à la limite. Non, par contre, la question, c'était les 8 millions de coûts envisagés. Et donc, ma question, elle est simple. Et comment ces 8 millions seront-ils financés, quoi ? Parce que c'est déjà, je dirais, c'est... Alors, on n'a pas les terrains encore, hein, etc., même si je ne doute pas, malgré la longueur des démarches administratives, etc., que cela se fasse, j'en doute pas. Il y a déjà 8 millions d'inscrits en dépenses, et la question, c'est comment seront-ils financés ?
Alors, ils seront financés par le budget municipal, mais ils seront également financés par le recours à des subventions qu'on va solliciter auprès des fonds européens, auprès de la région, de l'État, du département, de l'intercommunalité, pourquoi pas, s'il y a une part de transport, de mobilité douce. L'objectif est... Bon, alors, effectivement, cette dépense interviendra dans les années 2023-2024 en fonction de la disponibilité offerte par la SNCF. Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, si on veut faire cet aménagement 2023-2024, c'est maintenant qu'il faut lancer les appels d'offres compte tenu des contraintes que j'évoquais tout à l'heure. On sera véritablement engagé que le jour où les ordres de service seront signés, donc dans quelques années. Ça ne va donc pas peser sur le budget immédiatement, à l'exception évidemment des frais liés à l'organisation du concours, très certainement. Et la volonté que nous avons, c'est évidemment de faire de cette passerelle un élément qui va rapprocher ces deux quartiers, un élément qui soit facile à fréquenter, agréable à fréquenter. On ne voulait pas faire un couloir étroit qui enjambe les voies SNCF. Si on veut véritablement raccrocher le quartier Berge de Marne au centre-ville, il fallait une passerelle plus large. Pourquoi pas une passerelle en partie végétalisée ? Il faut que ce soit un lieu d'agrément. Il faut que les gens aient plaisir à se balader sur cette passerelle et qu'ils n'aient pas le sentiment de franchir un obstacle. Qui plus est, alors on a pu voir un certain nombre de passerelles de taille à peu près comparable. À Agneau notamment, qui est une des dernières passerelles qui a été construite dans notre région, et c'est comme ça qu'on a à peu près calibré les coûts. C'est-à-dire qu'on sait à peu près qu'une passerelle, en fonction de sa longueur, on peut avoir une fourchette évidemment, mais que le chiffre de 8 millions tient à peu près compte des contraintes qu'on a fixées, de la longueur de cette passerelle. Alors ça peut évoluer dans le temps, hein. Peut-être que les techniques de construction seront différentes dans quelques années, mais c'est l'ordre de grandeur qu'on s'est fixé par référence à d'autres passerelles construites au-dessus de voies SNCF qui ont pu être construites en France. Il y en a quelques-unes qui sont sorties ces dernières années. Monsieur, j'allais dire, vous avez l'étiquette Hélène Perrin devant vous, donc
oui, mais
ça me trouble.
Pour la parité,
j'en
mais...
J'en changer. Oui.
Monsieur le maire, chers collègues, avec William Richard, nous ne nous associerons pas à l'orientation majoritaire qui nous est aujourd'hui proposée. Il me semble déjà d'ailleurs l'avoir dit dans cette enceinte il y a quelques mois, quelques temps déjà. C'est votre projet, vous conduisez votre projet, vous avez tout à fait loisir de le faire. Nous n'avons pas participé parce que le postulat de départ ne nous semble pas suffisamment ouvert. Vous partez d'un postulat pour faire un quartier essentiellement résidentiel. Nous avons toujours maintenu l'idée qu'il fallait conserver à ce quartier un caractère industriel, et j'y allais dire d'autant plus industriel que désormais la transition énergétique, avec la nécessaire relocalisation des activités demain, parce que ça sera l'un des enjeux peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, de relocaliser un certain nombre d'activités sur notre territoire. C'est un enjeu prépondérant. Il me semble qu'il faut qu'on regarde l'avenir, non pas avec nos yeux d'aujourd'hui, mais qu'on essaye déjà de se transposer dans un futur qui, malheureusement, pour nos concitoyens, en particulier les plus jeunes, qui quittent à l'appel cette ville, il faut leur donner un autre espoir. Le deuxième point, c'est que vous privez la ville d'une desserte ferroviaire pour ce quartier. Moi, je trouve que c'est dommage. Là aussi, on s'inscrit également dans cette démarche de transition énergétique. Cet accès au ferroviaire d'Épernay par l'industrialisation à l'époque et l'arrivée du chemin de fer a quand même été celle qui a permis à la ville de se déployer également sur d'autres pans d'activité, parce que le ferroviaire a contribué à l'essor de l'activité d'expédition du vin de Champagne. Donc il y a non seulement un quartier historique, mais un quartier, j'allais dire, névralgique en termes de destination, en termes d'ouverture de notre cité sur l'extérieur. Donc pour ces conditions, transition énergétique, desserte ferroviaire limitée, à un an du municipal, vous comprenez bien que nous n'allons pas prendre position pour votre projet. Nous allons attendre tranquillement que, lors des prochaines échéances, une équipe vienne proposer un projet alternatif qui tienne la route dans ce domaine, qui offre des perspectives de resédentarisation de l'emploi sur notre territoire. Donc pour ce faire, donc nous ne participerons pas à l'élan général autour de ce dossier.
Merci. D'autres interventions? Je voudrais apporter la réponse à l'intervention de Marc Lefebvre tout à l'heure. Donc je vous lis la lettre de la directrice exécutive des hypermarchés Carrefour. Monsieur le maire, vous avez bien voulu attirer mon attention sur la situation de l'hypermarché Carrefour à Épernay. Je vous remercie pour votre courrier. Vous soulignez à juste titre que le monde de la distribution connaît actuellement de grands bouleversements. Et c'est la raison pour laquelle Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, a présenté un plan ambitieux de transformation du groupe Carrefour. Ce projet ne signifie pas la fermeture des hypermarchés, mais leur transformation et adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs. De manière globale, nous avons décidé de mettre fin à certaines activités ne répondant plus aux attentes de nos clients afin de nous recentrer sur l'alimentaire et les services. Concernant plus spécifiquement notre hypermarché à Épernay, nous n'avons pas de projet de fermeture, mais bel et bien une ambition de transformation de ce magasin. Ainsi, et afin d'améliorer notre gamme de produits bio, nous envisageons des innovations pour renforcer notre offre de produits issus de l'agriculture biologique. Par ailleurs, et dans le souci de répondre aux attentes de nos clients, nous souhaitons également consolider nos partenariats avec les producteurs locaux afin de privilégier l'origine France et locale de nos approvisionnements. En espérant vous avoir rassuré quant à la pérennité de l'hypermarché Carrefour d'Épernay, je vous prie de croire, Monsieur le maire, l'expression de ma meilleure considération. Alors, ce courrier illustre tout à fait la situation de la grande distribution aujourd'hui, qui voit son modèle remis en cause par les évolutions sociétales. On a connu la période de gloire de la grande distribution, et cette grande distribution aujourd'hui est attaquée de toutes parts, d'abord par le commerce à distance, l'e-commerce, ensuite par l'évolution des modes de vie et des attentes des consommateurs. L'attente en produits frais est plus importante aujourd'hui. La volonté de privilégier des filières courtes, voire des filières d'agriculture biologique, doit être entendue par la grande distribution qui rediscute de son modèle, qui envisage de la vente en vrac, qui développe les filières courtes, qui abandonnera peut-être l'écoulement, par exemple, de produits électroménagers sur lesquels des filiales de ces différents groupes peuvent intervenir. Je rappelle que Carrefour, si je me souviens bien, est dans le même groupe que Darty et qu'il n'est pas impossible que demain, à la place du Carrefour, on ait sur... c'est pas ce qui m'a été dit, mais c'est ce qu'on peut imaginer. Abrite pour son rayon produits électroménagers un Darty dans le Carrefour, et on va aller vers des espaces spécialisés et non plus vers une seule et même entité qui gère des produits frais, la poissonnerie, la charcuterie, le fromage, le pain, etc., jusqu'aux produits électroménagers, mobilier et autres, mais plutôt vers un recentrage des hypermarchés sur les activités qui fonctionnent le mieux, à savoir notamment l'alimentaire, ce qui est le poste numéro un en général des hypermarchés. Donc il faut s'attendre à des évolutions, pas seulement à Épernay, mais un peu partout. Il faut s'attendre à l'arrivée et à la croissance de l'e-commerce qui se développe et qu'on constate notamment chez les plus jeunes, qui sont un souci, qui sont un sujet d'inquiétude dans la mesure où effectivement le recours exclusif ou à l'e-commerce risque d'avoir des conséquences sur le tissu traditionnel. Ça fait partie des réflexions que nous menons dans le cadre Action au cœur de ville. J'ai reçu ce matin l'équipe de maîtrise d'œuvre qui va piloter les différentes études que nous engageons sur le sujet. Il y aura un volet de ces études sur l'évolution du commerce parce que, encore une fois, la société évolue, la révolution numérique est là, les attentes des consommateurs changent et... tout comme un hypermarché comme Carrefour doit s'adapter à cette situation nouvelle, nous-mêmes et les commerçants du centre-ville doivent s'y adapter également. Donc on est sans doute à la veille d'un certain nombre d'évolutions que toutes les villes connaissent actuellement. Il est peut-être plus difficile aujourd'hui de vous décrire ces évolutions parce qu'on ne sait pas quelle forme elles prendront et à quel rythme elles vont toucher le monde du commerce. Mais le courrier de Marie Cheval démontre bien qu'un groupe comme Carrefour ne peut pas ne pas... penser à l'évolution de son modèle de distribution. Y a-t-il d'autres questions sur ce rapport ? Pas d'autres questions. Donc, alors, qui ne prend pas part au vote ? C'est abstention, hein ? Abstention. Donc, deux abstentions, trois abstentions, avis contraire, le rapport est adopté. Nous poursuivons avec Joachim Verdier pour le rapport 4.3.
Mes chers collègues, je vous propose de donner à la voie qui desservira la résidence autonomie et l'immeuble de logement le nom d'allée Galis en référence à l'ancien foyer du même nom. Cette dénomination est indispensable dès maintenant pour procéder aux formalités de numérotation et d'adressage de ces nouveaux bâtiments. Donc il s'agit de la sente piétonne qui séparera les nouveaux bâtiments du parking que vous connaissez entre... la rue de Cézanne et la rue Galis.
Et qui reliera la rue Galis à la rue de Cézanne.
Donc ça sera une sente,
Fleurie, en plus,
fleurie avec... qui permettra d'isoler aussi les piétons des véhicules, ce qui aujourd'hui est un petit peu difficile.
Merci. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4.4. Jonathan.
Merci, monsieur le maire, chers collègues. Je vous propose d'adopter cette délibération qui prévoit la mise en place de deux premières zones de covoiturage. L'une est située pour 5 places au bas de la rue de Lorraine pour se diriger vers Châlons et la seconde, 2 dizaines de places, sur le square Raoul Chandon qui est assez central et permet d'avoir... Il y a une large place de stationnement autour. Cette mise en place de zones de covoiturage se font en adéquation à ce qui se fait sur tout le territoire du pays d'Épernay, mais aussi du PNR de la montagne de Reims, puisque dans le cadre de territoire à énergie positive pour la croissance verte, donc le TEPCV, il y a une mise en place de 40 parkings de covoiturage sur le territoire. Donc Épernay, évidemment, a été repéré pour le faire. Donc la première aire a été inaugurée à Marieux-sur-Aille, enfin à Aille-Champagne, le 8 mai dernier. Donc il y a des financements, 80% de ces panneaux, parce qu'il faut des quelques panneaux, sont pris en charge par le TEPCV et les 20% restants par le PNR, la montagne de Reims. Voilà, donc c'est matérialiser des choses comme ça, et puis ça annonce quand même beaucoup d'actions en matière de mobilité durable, puisqu'on a recruté une ambassadrice au mois de novembre dernier qui travaille sur les trois territoires des agglomérations d'Épernay, de d'Ormont et d'Aï, et des actions sont mises en place, et notamment ces covoiturages, mais aussi la mise en place la réflexion à la mise en place d'un schéma directeur vélo pour qu'on puisse, à l'échelle du grand territoire, connecter nos pistes cyclables et investir pour le développement du vélo sur le territoire. Donc ça, c'est en cours. On attend une réponse de l'État pour des financements. Ça devrait arriver, j'espère, avant l'été. En tout cas, voilà des actions concrètes de mise en place de mobilité durable sur le territoire.
À quoi ressemble le marquage général?
C'est assez simple. Il y aura par terre marqué covoiturage et puis un panneau avec une petite voiture à marquer plus 2 et deux bonhommes qui sont dedans.
D'accord. Voilà. Des questions? Oui, Marc.
Oui, du point de vue pratique, comment éviter que des voitures utilisent cet emplacement pour un simple stationnement et non pas pour du covoiturage, comme il n'y a que 5 places la rue de Lorraine?
Normalement, il y a des contrôles qui sont faits par la police municipale, en passant. Après, on compte sur... Il y a quand même de la place de stationnement autour, donc ce serait dommage d'aller se mettre là-dessus. Après, c'est quand même de la sensibilisation. On n'est pas sur la sanction aujourd'hui. Je pense qu'il est utile de rappeler, parce qu'il y aura des guides, des fléchages qui seront mis en place pour signaler où il y a des zones de covoiturage. On est vraiment dans la phase de concertation, dans la phase de communication, je dirais, en tout cas de conviction de changer de façon de se déplacer. Aujourd'hui, on n'est pas la sanction, c'est pas là. Voilà. Globalement, ça marche assez bien. Les gens qui le font font du covoiturage quand ils utilisent ça. Il y a de la place de stationnement à côté. Donc bon.
Parce que les zones de covoiturage, on existe en Allemagne depuis 20 ans ou 25 ans plus, c'est souvent en dehors des villes. Hein. C'est rare que ce soit dans les villes. Dans les villes, il y aura une concurrence pour le stationnement quotidien.
Et c'est pour ça que c'est à l'échelle du PNR et du pays que c'est réfléchi, puisque si on prend en dehors des villes, on a des villages qui nous touchent. Donc il y a Dizy qui est, par exemple, qu'il y en a une. Je crois que il y en aura aussi. Il y a quelques autres villages qui, comme ça, en ont. Après, pour ce qui est de la périphérie de la ville, on a repéré une zone de covoiturage. On a déjà parlé il y a quelques mois maintenant. C'est en travaux aujourd'hui, donc on ne va pas vous le mettre maintenant alors que c'est encore en travaux. C'est le parking qui est situé à côté de la faïencerie, donc à côté de la pompe de relevage des eaux usées, qui aujourd'hui est en rénovation. Et il y a le parking de rugby qui sert souvent le mercredi ou le week-end ou le soir, donc il ne sert pas quand il pourrait servir au covoiturage. En tout cas, ce parking est assez grand pour la semaine être fléché covoiturage. Ça a été vu avec le service des sports, avec la communauté d'agglo. Donc on reverra quand les travaux sont finis si c'est opportun encore de le faire, mais ça a été repéré à l'extérieur de la ville, c'est plutôt celui-ci qui a été repéré.
Il me semble qu'on avait une aire de covoiturage qui était à la sortie d'Épernay direction Chalon. Je me vois encore l'inaugurer tout près du giratoire de Belnou, à l'entrée d'Épernay. On avait marqué au sol, alors peut-être que c'était pas marqué, il n'y avait pas le marquage à l'époque, il n'existait pas. Mais on avait identifié cette zone-là, parce que pour des gens qui partent vers Chalon, qui reviennent de Chalon, en entrée d'agglomération, ils ont tout de suite quelques places disponibles.
Ouais. Alors oui, je vois sûrement les deux côtés qui sont sur la pénétrante, là, peut-être. C'est là que tu imagines ça,
oui.
Mais je vois pas.
Oui,
il n'y a pas eu de marquage.
En face, de l'autre côté, par rapport à la station de l'eau.
Ouais, ça n'a pas été repéré.
Alors ça n'a peut-être pas été matérialisé.
Mais c'est un endroit qu'on a aussi, qui a été repéré aussi par les services et qu'on imagine. Si on voit qu'il y a un grand succès sur la rue de Lorraine, on pensait à décaler après, parce que c'est vrai que ces stationnements ne servent pas aux riverains forcément.
Non.
Ils avaient été imaginés aussi pour les riverains de la rue de la Guadeloupe. Et ça ne sert pas forcément. Et on a un espace de stationnement qui est libre et qui pourrait, si demain il y a un engouement fort pour le covoiturage, servir à ça.
Pas d'autres questions? Avis contraire? Abstention? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5 concernant la SEM du ballon captif. En l'occurrence, l'augmentation de capital et la participation à l'augmentation du capital. Chers collègues, je vous propose que la commune, en sa qualité d'actionnaire de la SEM, donne un avis favorable à l'augmentation du capital de la SEM Ballon Captif avec l'entrée de deux nouveaux actionnaires, Aérophile pour 50 000 euros et la SEM Agencia pour 30 375 euros. Je vous propose également que la commune participe à cette augmentation de capital en souscrivant des actions supplémentaires à hauteur de 118 500 euros afin de garder une majorité suffisante à 68,28%, lui permettant d'exercer un réel contrôle sur la SEM. Il était convenu dès le départ que la SEM voit son capital augmenter après le démarrage de son activité. Il sera également nécessaire à un moment ou à un autre de faire en sorte que la part des financements de l'agglomération croissent à l'intérieur de la SEM, probablement au détriment de la ville, puisque, entre-temps, comme vous le savez, l'activité touristique est devenue une compétence intercommunale. En tout cas, l'opération qui vous est proposée aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du développement qui avait été programmé de la SEM. Je peux peut-être demander à Benoît de nous y dire quelques mots.
Oui, oui, effectivement, donc... peut-être avant toute chose, je voudrais inviter les collègues qui siègent au conseil d'administration de l'ASEM de ne pas prendre part au vote. Ce sera mieux ainsi et ça ne devrait pas perturber outre mesure les opérations de vote. Pour ce qui est de la société d'économie mixte, donc effectivement, hein, nous avions décidé à l'origine de partir avec un certain nombre de partenaires privés actionnaires qui étaient des actionnaires avec un ticket de 5 000 euros. Et puis, entre-temps, nous avons été sollicités par Agencia, qui est une autre SEM de développement local et qui, elle, a délibéré très tôt, hein, au mois de novembre ou décembre dernier, simplement pour éviter d'alourdir les frais liés à l'augmentation de capital. Et comme nous avions d'autres partenaires, en l'occurrence Aérophile, on a préféré faire un package, si vous me permettez l'expression. Et donc, c'est la raison de cette délibération qui sera suivie donc, par une délibération à l'aglo, puis par la réunion d'une assemblée générale extraordinaire pour procéder à l'augmentation de capital. Sachant que je vois prochainement Aérophile pour dans cette optique lundi prochain. Quant à Agencia, elle a d'ores et déjà délibéré, donc pas de. Elle attendait surtout notre feu vert.
Merci. Des questions sur ce rapport, Madame Demange.
Monsieur le maire, merci. J'ai vu qu'il y avait une page Facebook du ballon qui avait été créée début mai. Qu'en est-il du concours qui avait été lancé par l'Office du tourisme en juillet 2018 pour déterminer le nom? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet sur les réseaux sociaux. Pourquoi si long et pourquoi il n'y a pas eu depuis juillet 2018 de décision de prise?
Oui, le conseil d'administration, pour aborder la question, le conseil d'administration n'a jamais donné l'autorisation à quiconque de lancer un tel concours. Ça a été une initiative personnelle. Je tiens à votre disposition les procès-verbaux des conseils d'administration de la Société d'économie mixte. À aucun moment, nous n'avons souhaité un tel concours. Ça a été l'initiative du directeur de l'Office de tourisme qui s'est un petit peu emballé, si j'ose dire. Pour autant, le concours a eu lieu. Le CA doit délibérer prochainement pour savoir si nous utilisons ou nous choisissons un des noms qui est sorti de cette consultation ou si nous conservons le nom qui existe aujourd'hui. Le conseil d'administration en délibérera. De mon point de vue, plus qu'un nom, c'est surtout une image que le ballon véhicule. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est qu'en l'occurrence, on a un certain nombre de noms qui, s'ils venaient à être choisis, pourraient poser des difficultés, notamment au regard de la législation ou de la réglementation autour de l'utilisation du mot « champagne ». Donc, il y a un conseil d'administration. Il doit se réunir très prochainement. Il statuera sur cette question. Mais je ne suis pas sûr que cette initiative qui a été prise un peu dans la précipitation et sans en référer au conseil d'administration, ni même au président que je suis, je ne suis pas sûr qu'elle aille au bout. Voilà. Donc c'est le conseil d'administration qui en délibérera.
Alors je ne suis pas membre du conseil d'administration, mais j'ai toujours été un peu dubitatif derrière cette idée, parce qu'encore faut-il qu'elle ait une valeur ajoutée. Parce que qui dit donner un nom à ce ballon, dit élaborer une charte graphique, communiquer autour. Le ballon captif, tout le monde comprend ce que c'est. Trouver un nom derrière, c'est susciter des questions, c'est faire des heureux et des mécontents. Et ça ne me semblait pas être la priorité des priorités. Maintenant, s'il y a un nom qui est finalement... émerge et qui suscite l'adhésion de tous, je m'y rangerai, mais spontanément, pour moi, ce n'était pas la priorité de lui trouver un nom. Je comprends que ce soit sympa parce que ça permet d'animer de créer une petite animation sur les réseaux sociaux, et on va dire que c'est la tendance du moment. Mais est-ce que c'est la priorité quand on aménage un équipement de cette nature, qui a des contraintes de commercialisation? Je crois que c'est sorti peut-être un peu vite et que ça a pu semer le trouble. En tout cas, ça a suscité, je vous rejoins, des questions et des interrogations et des propositions qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il appartiendra au conseil d'administration, le moment venu, de statuer dessus, de voir si effectivement le fait de lui trouver un nom différent lui apporte une valeur ajoutée en termes d'image, en termes de notoriété, en termes d'écho médiatique. Pour le reste, tous les gens que je rencontre me parlent du ballon captif d'Épernay, qui a l'avantage d'avoir un nom que tout le monde comprend. Mais bon, encore une fois, si le conseil d'administration trouve quelque chose de sympa et qui contribue au rayonnement du ballon, pourquoi pas, hein, mais c'est pas. Mais il n'y a pas d'obligation, en tout cas. Des questions sur ce rapport?
Juste pour réagir, donc c'est assez grave, du coup, de la part de l'Office du tourisme qui a décidé, sans votre accord, de lancer ce concours. Ça se met le doute, effectivement. Je pense que maintenant, il est trop tard pour le nom. Effectivement, c'est le ballon captif d'Épernay. Tout le monde l'appelle comme ça.
Oui. Mais encore une fois, si quelqu'un a une idée géniale et que cette idée, elle suscite l'adhésion de tous, pourquoi pas, hein, c'est pas fermé. Mais je suis pas certain que dans les noms, en tout cas que j'ai lus, sur les réseaux sociaux, il n'y a rien qui m'a véritablement séduit, quoi. Donc...
En tout cas, on peut remercier les personnes qui ont contribué.
Oui. Il y en a qui se sont donné du mal, mais... Mais voilà, l'objectif n'est pas fermé, ce n'est pas un axe de développement majeur. Monsieur Richard.
Oui, merci monsieur le maire. Au risque, je dirais pas de choquer, mais en ce qui me concerne, le nom, pas le nom, etc., très franchement, j'en ai... Voilà.
Hein? Comment on traduit le...
Non, mais c'est rentré dans les mœurs, que c'est le ballon... Le ballon captif, bon, voilà. Même ce que je dis, c'est ce que j'entends de gens de l'extérieur. Hein. Bien. Non, j'avais juste une remarque par rapport à l'augmentation de capital. C'était sur le fait que la SEM Agencia, on est aussi actionnaire. La ville d'Épernay est actionnaire.
Oui.
Donc, on sera deux fois actionnaire.
Oui, mais on est actionnaire, on doit avoir 4 ou 5% d'Agencia, un truc comme ça.
Un peu plus, il y a quelques mois déjà, quand même, on avait...
Je ne sais plus, on est un petit actionnaire.
Enfin, on est deux fois actionnaire, quoi, quand même.
Oui, mais en l'occurrence, c'est la...
Je vais même dire 3, puisqu'on fait partie de la communauté d'agglo.
Je l'avais oublié. Merci. Et comme quoi, il faut toujours, quand on a des interrogations, les exprimer.
Le tourisme est aussi...
Oui, bien sûr, ça je sais.
Oui, mais maintenant, c'est plus la ville.
Maintenant, c'est l'agglo.
Oui, mais comme c'est l'agglo et que l'agglo, quelque part, c'est la ville.
Voilà. Pas d'autres questions? Avis contraire sur ce rapport? Abstention? Une abstention? Deux abstentions? Trois abstentions? Le rapport est adopté. Il nous reste à évoquer le rapport numéro 6 concernant les décisions prises par délégation du Conseil municipal, l'article 2122. Avez-vous, mes chers collègues, des questions particulières à poser? Allez-y. La 7? En fait, beaucoup de collectivités font appel à ce genre de société. Il y en a plusieurs sur le marché qui ont pour objectif de faire, on va dire, de l'optimisation fiscale dans le bon sens du terme, pas dans celui dont on entend parler dans les médias, c'est-à-dire de s'assurer de la fiabilité des bases fiscales, de s'assurer de leur mise à jour régulière et de veiller à ce que
les déclarations qui doivent être faites par les particuliers ou par les entreprises soient bien faites. Cette société donc va nous assister de manière à s'assurer qu'aucun oubli n'existe dans les fichiers fiscaux. Ça arrive, hein, ça peut être des erreurs informatiques parfois, ça peut être des déclarations qui ont été oubliées ou perdues de l'autre. Et comme ça rejaillit sur la base fiscale, c'est-à-dire la masse des biens immobiliers fiscalisables, c'est ce genre d'études qu'on devrait faire en règle générale tous les 6-8 ans pour s'assurer qu'il n'y a pas des oublis ou des pertes. Parce que évidemment, si un bâtiment est oublié, si une propriété est oubliée, ben c'est la fiscalité qui va avec qui disparaît. C'est la raison pour laquelle, comme vous le voyez dans la note, la société Altra Consulting sera notamment payée par une partie des recettes tirées de son travail. C'est-à-dire que c'est les entreprises qui ont la quasi-certitude de retrouver des anomalies dans les fichiers fiscaux et donc se rémunéreront en partie sur les anomalies détectées qui vont générer une ressource pour la ville. D'autres questions ? Alors, je crois que je vais laisser Pierre répondre. Je sais qu'en tout cas, la société du Tour de France vient avec ses propres écrans géants, puisque à chaque site, voilà, à chaque ville arrivée, la société du Tour de France amène avec elle ses panneaux qui sont, enfin, c'est sur des semi-remorques, c'est gigantesque. Hein, c'est des écrans qui font peut-être entre 15 et 25 mètres carrés, qui appartiennent à la société du Tour de France et qui sont là à chaque étape. Il y a ensuite, alors on peut le faire évidemment sur le site d'Épernay. Maintenant, il y aura peut-être d'autres écrans installés ailleurs. Et puis aujourd'hui, les gens ont des tablettes aussi. Ils vont suivre sur des tablettes, sur des smartphones, puisque on peut suivre l'émission, une retransmission d'étapes sur son smartphone. Donc les usages aussi évoluent. Il y a quelques années, si on n'avait pas un écran géant, on était un peu foutu. Maintenant, chacun peut suivre sur son smartphone gratuitement, puisque France Télévisions est d'accès gratuit sur les smartphones. Le spectacle en question.
Pour compléter l'information, il y aura un écran géant Place de la République, un écran recto verso. C'est-à-dire qu'on va l'installer. Vous pourrez voir des deux côtés l'arrivée du Tour, Place de la République.
Non, parce que le ballon sera très vraisemblablement au sol au moment où les hélicoptères... au moment où les hélicoptères...
Il va monter.
Il n'y a pas de souci.
Non, il va monter. Ah, bon. L'autorisation, il va monter.
Bon, ce qu'il ne faut pas, c'est que l'hélicoptère percute le ballon.
Il va sûrement monter à 50 ou 80 mètres. Des questions de retransmission télé aussi.
Et sachez qu'on a déjà pas mal de demandes, y compris de maisons de retraite, qui nous ont demandé des lieux pour pouvoir emmener les personnes âgées au bord de la route. Ça témoigne du fait que c'est un événement populaire avant tout, que tout le monde, quel que soit son âge, a entendu parler du Tour de France, que c'est un événement festif et qu'on va essayer de faire en sorte que les plus jeunes, à travers les centres de loisirs, les initiatives privées, un certain nombre d'entreprises ont d'ores et déjà réservé des lieux dans des cafés, dans des restaurants qui sont au bord de la route, pour leurs clients, et les plus âgés seront donc aussi au bord de la route. L'objectif, c'est qu'il y ait un maximum de monde et que tout le monde prenne beaucoup de plaisir ce jour-là.
Voilà. Concernant la 21, le champagne en fête, avez-vous tenu compte du demi-échec de l'an dernier ? Est-ce qu'il y a des changements notables ?
Alors oui, le changement notable, c'est le lieu, puisque ce sera Épernay. Et la volonté qui a été exprimée par un certain nombre de villages au lendemain de la dernière édition, c'était de dire, finalement, à Épernay, ça a marché le vendredi soir, mais chez nous, c'est beaucoup plus difficile parce que les touristes ne sont pas tous mobiles et ne viennent pas tous avec leur voiture dans nos villages. Donc, est-ce que la bonne stratégie ne serait pas qu'Épernay accueille les villages des alentours ? C'est donc l'inverse qui va se produire, c'est-à-dire qu'Épernay va accueillir un village vigneron en son sein. Parce que pour les acteurs, tous considéraient que finalement les touristes sont à Épernay mais ne vont pas forcément à l'extérieur. Donc est-ce qu'il ne serait pas plus opportun d'essayer de tenter une formule où ce sont les villages situés autour d'Épernay qui viennent s'installer à Épernay. Je rappelle que c'est un peu le modèle, on en avait discuté au tout début, le modèle qu'a adopté Bordeaux, où quand il y a la fête du vin à Bordeaux, ben vous avez tous les crus qui sont le long des quais, et donc ils viennent au cœur de Bordeaux, parce que c'est beaucoup plus facile que de ventiler les touristes dans un territoire immense. Donc c'est le choix qui a été fait. Ce sera ce qui est la version de cette année.
C'était la proposition que j'avais faite sur l'Épernay Journal juste après le demi-échec.
C'est possible. En tout cas, c'est la demande qui est venue d'un certain nombre d'acteurs qui considéraient que ce n'était pas facile dans chaque village d'organiser quelque chose parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens qu'à Épernay, il n'y a pas le même bénévolat et le même professionnalisme qu'à Épernay. Donc on va tenter cette expérience qui devrait, à mon avis, fonctionner. Je rappelle quand même que la première édition, qui aurait dû être une grande réussite, a été douchée totalement par un temps digne du mois de novembre qu'on a connu il y a 2 ans, et ce qui a évidemment fortement marqué les uns les autres. Dans les villages, il y avait fait des efforts depuis plusieurs semaines, et tout ça a été réduit à néant par un temps épouvantable. Mais bon, je pense que le concept va se développer petit à petit, va trouver sa place en tout cas à ce moment précis de l'année, et je suis persuadé que le succès sera au rendez-vous.
La numéro 28...
Oh ben dites donc, vous êtes en forme aujourd'hui.
Non, je lis les choses, hein, et puis je me renseigne. La numéro 28, location d'une licence de boisson à consommer sur place, 4e catégorie, à Lauter.
Oui.
C'est dans quel but exactement?
Je pense que c'est simplement pour maintenir la validité de la licence.
Ça avait déjà été voté.
Ouais. Hein? C'est-à-dire qu'on a une licence disponible au niveau de la ville, et si on ne l'active pas, elle disparaît au bout d'un certain temps. Donc chaque année, on la confie pour quelques jours à l'office, histoire de maintenir les droits.
Pour l'année, elle est utilisée notamment dans le cadre de l'opération Esprit de Champagne.
Voilà. Elle appartient à la ville, elle est mise à disposition de l'office. Si un jour, pourquoi on a cette licence? C'est parce qu'il y a des fois, on a des investisseurs qui sont prêts à venir installer un établissement à Épernay et qui sont en manque de licence. Donc comme on avait l'opportunité d'avoir une licence à un prix tout à fait intéressant, on avait acheté cette licence qu'on garde en réserve au cas où ça pourrait faciliter l'implantation d'un projet nécessitant une licence. En attendant, on l'avait confié à une époque aussi Prestige Burger, à une époque l'utiliser, histoire de la faire vivre. Parce que si elle ne vit pas, au bout d'un certain temps, elle tombe. Donc là, c'est l'Office du tourisme qui, depuis, a pris le relais.
Et puis je termine par la 43. Concernant le plan d'aménagement au bord du Cubri pour les camping-cars, on l'a vu en commission cadre de vie?
Attendez, c'est lequel?
43.
Ah, 43.
On l'a vu?
J'en sais rien.
Ça avait été décidé globalement.
Oui, 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 oui.
Mais dans le détail... Je ne me souviens plus si on a bien analysé tout cela, vu les plans, vu la réalisation.
Je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas si... Ne siégeant pas à la
c'est
commission.
Quand même un investissement important, 420 000 euros. Je ne me rappelle pas qu'on en ait discuté en commission.
C'est vrai, je ne suis pas sûr qu'on l'ait vu en commission.
Ah oui.
Mais c'est un projet qui ne nécessite pas d'être vu, je dirais, parce qu'il y a un espace, mais qui est quand même restreint. Et il y a un aménagement qui est fait pour permettre l'infiltration de l'eau sur place et pas,
non,
pas,
on
pas
peut la le présenter, il n'y a pas de problème.
Après, on peut le faire,
s'il n'a pas été présenté, c'est un oubli.
Parfois, les commissions durent peu de temps. Là, c'est
une solution. Oui, on peut le faire, on peut réparer très vite.
Prochain.
Mais l'idée, c'était d'utiliser ce terrain en conservant ses spécificités naturelles, c'est-à-dire d'en faire un aménagement qui permette à l'eau de s'infiltrer et qui soit dans un environnement plutôt un peu boisé, ce qui, à mon avis, devrait convenir. Sachant qu'on a une clientèle de plus en plus importante de camping-caristes. Et qu'évidemment, il faut qu'on ait un équipement digne de ce nom. Sinon, on fait l'objet de critiques sur les réseaux sociaux. Pas d'autres questions? L'ordre du jour du Conseil étant terminé, je vous remercie de votre participation. Le prochain Conseil, c'est le 24 juin. Bonne soirée à tous.